Si on marche aujourd'hui dans les galeries du musée Van Gogh à Amsterdam et qu'on s'arrête devant l'une des toiles les plus célèbres du monde, la chambre à Arles, bah on y voit un chef-d'œuvre.
Un chef-d'œuvre, oui, mais défini par des tons froids.
Voilà, exactement, des murs bleu clair, super apaisants, une atmosphère presque aquatique.
Sauf que le problème, c'est qu'on regarde un mensonge.
C'est fou de le dire comme ça, mais oui, c'est un fantôme chimique. L'artiste avait en réalité peint cette pièce avec des murs d'un lilas vibrant et un sol rouge sang.
Ce qui change absolument tout. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle exploration, on va faire appel à la chimie moléculaire, à l'astrophysique et à l'analyse microscopique.
Tout ça pour reconstruire une harmonie parfaite qui s'est littéralement évanouie dans les airs.
C'est le paradoxe fascinant de cette œuvre. En fait, on a souvent tendance à penser qu'une peinture à l'huile enfermée dans un musée, bah, c'est figé pour l'éternité.
Genre une fenêtre intemporelle sur l'esprit de l'artiste.
Exactement. Mais la matière est vivante. Et parfois, elle meurt.
Et pour décrypter ça, on s'appuie sur une documentation vraiment riche aujourd'hui. On a une étude scientifique ultra exhaustive de l'université Cornell. Ils ont décortiqué les matériaux des toiles jusqu'à l'atome.
On a aussi les archives historiques de ce qu'on appelait la Maison Jaune.
Et surtout, on a une lettre, la fameuse lettre B22, écrite par Vincent Van Gogh lui-même à Paul Gauguin, qui est le véritable testament de sa vision originelle.
C'est une archive inestimable.
Donc, la mission de notre discussion, c'est de gratter sous la surface de cette image mondialement connue. C'est presque devenu un cliché de carte postale, non, avec sa petite chaise en paille et son lit jaune.
C'est vrai que c'est hyper iconique.
Ben, on va plonger dans les secrets que la science moderne a déterrés, comment la lumière a détruit une œuvre d'art en direct, comment on utilise des techniques de police scientifique sur des fils de lin pour résoudre des querelles d'historiens.
Et même, comment le mouvement pop art a fini par transformer ce petit sanctuaire en une immense blague industrielle.
C'est un programme chargé, et pour quiconque a déjà soigneusement aménagé son espace personnel pour y trouver la paix, bah, l'histoire de cette chambre montre à quel point ce désir est universel.
Universel, oui, mais aussi incroyablement fragile face au temps.
Complètement. Mais pour comprendre l'œuvre, il faut d'abord pousser la porte de la véritable maison qui l'abritait. Il faut lire les mots exacts de l'artiste.
Alors, posons le décor. On est dans le sud de la France, à Arles.
Le 1er mai 1888, plus précisément.
C'est ça. Van Gogh vient de louer quatre pièces dans l'aile droite du 2 Place Lamartine. C'est le bâtiment qu'on appelle la Maison Jaune.
Et sa chambre, à lui, elle est au premier étage, c'est bien ça?
Tout à fait. Et elle a une particularité architecturale assez dingue. Elle n'est pas rectangulaire.
Ah bon?
Non, elle est trapézoïdale. Le mur de la fenêtre est de biais. Ça crée un angle obtus d'un côté et un angle aigu de l'autre.
Ah, c'est pour ça que ça donne parfois un peu le mal de mer quand on étudie la perspective du tableau de trop près.
Exactement. C'est peu juste lui qui déforme la réalité. La pièce était vraiment tordue. Et juste à côté, il y a la chambre d'amis qui attend impatiemment l'arrivée de Paul Gauguin.
Bon, décortiquons tout ça. Moi, ce qui me frappe, c'est que Van Gogh agit ici presque comme un blogueur déco du 19e siècle, tu vois?
Un blogueur déco, c'est une sacrée image.
Mais c'est vrai, il orchestre frénétiquement une ambiance spécifique pour son colocataire. Dans la lettre B22, il décrit une, je cite, simplicité à la Seurat.
Oui, il veut peindre en teinte plate.
Sans aucun blanc, sauf pour le miroir, c'est hyper précis.
Et ses choix de couleurs sont radicaux. Dans ses lettres, il explique que les murs doivent être d'un lilas pâle, le sol d'un rouge rompu et fané.
Le lit jaune beurre frais, j'adore cette expression.
Les draps vert citron pâle et la couverture rouge sang.
Rouge sang et vert citron, ça a l'air super agressif visuellement, non?
Eh bien, paradoxalement, non. Le but ultime de Vincent, c'est d'exprimer un repos absolu, pour l'esprit et pour l'imagination.
Avec du rouge sang, j'ai du mal à saisir.
C'est la magie des paires de couleurs complémentaires. Le rouge s'oppose au vert, le jaune au violet. Il crée une tension maximale entre les couleurs, de sorte qu'elles s'annulent psychologiquement.
Donc, cette violence chromatique crée en fait une harmonie calculée.
C'est exactement ça, une harmonie parfaite.
Sauf que, et c'est là qu'on arrive à une contradiction flagrante, l'artiste voulait des murs lilas et un sol rouge, on est d'accord, mais quiconque regarde ses toiles aujourd'hui y voit des murs bleu clair.
Et un sol un peu marronnasse, oui.
Alors que s'est-il passé?
C'est là que l'équipe de l'université Cornell intervient, avec des technologies de pointe.
De la grosse science, quoi.
Voilà. Ils ont utilisé la fluorescence X et la chromatographie en phase liquide pour analyser les pigments. Ce qui est fascinant ici, c'est de découvrir que la chimie a littéralement détruit l'harmonie parfaite voulue par l'artiste.
Attends. La chimie l'a détruite, comment ça?
Van Gogh a utilisé de la laque de cochenille et surtout une laque de géranium qu'on appelle léosine. C'est un rouge magnifique.
Mais, je sens qu'il y a un mais.
Mais c'est très fugace. Exposés à la lumière, ces pigments rouges se sont dégradés. Leurs molécules se sont brisées sous l'effet des photons et la couleur rouge a tout simplement disparu.
Disparu? Genre évaporé?
Totalement. C'est pour ça que le violet des murs, qui est un mélange de bleu et de rouge, ben il n'en reste plus que le bleu.
C'est tragique en fait. Mais est-ce qu'on a des preuves physiques de ce rouge d'origine ou c'est juste de la théorie?
On a des preuves irréfutables. Sous le cadre du tableau d'Amsterdam, il y a une petite bande de peinture qui a été préservée de la lumière pendant des décennies.
Et qu'est-ce qu'on y voit?
On y voit encore le lilas éclatant d'origine. Et pour le sol, c'est pareil. Une bande a été protégée par du ruban adhésif depuis un rentoilage dans les années 30. En l'enlevant, ils ont découvert un rose beaucoup plus vif que l'aspect violacé et terne actuel.
C'est dingue! C'est un peu comme si le temps avait appliqué un filtre Instagram permanent super froid et bleuté sur la vision super chaleureuse de l'artiste.
C'est une excellente métaphore.
Mais du coup, ça pose une vraie question philosophique. Si l'équilibre fondamental des couleurs, le jaune avec le violet, le rouge avec le vert, a disparu, est-ce qu'on regarde encore la véritable œuvre de Van Gogh?
Ça, c'est le grand débat des historiens de l'art. On regarde une version altérée par le temps, une sorte de collaboration involontaire entre l'artiste et la nature.
C'est beau dit comme ça, mais la science ne se contente pas de révéler des couleurs perdues, s'il est bien compris. Elle a aussi permis de résoudre une énorme dispute historique.
Oh que oui, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule chambre à Arles. Il y en a trois.
Trois versions de la même pièce. Et pendant longtemps, c'était la guerre pour savoir laquelle était la vraie première œuvre, c'est ça, hein ?
Exactement. Et tout part d'un drame. Pendant que Vincent était à l'hôpital, suite à la fameuse dispute avec Gauguin, son atelier a été inondé.
Par le Rhône, je crois.
Oui. Et la première toile, celle qui est aujourd'hui Amsterdam, a été gravement endommagée par l'humidité. La peinture commençait à s'écailler.
Oh, l'angoisse pour un peintre.
Pour sauver son œuvre, Vincent a dû y coller du papier journal dessus pour maintenir les écailles en place, avant de l'envoyer à son frère Théo.
C'est un geste de désespoir, un peu.
Complètement. Et avant que Théo ne fasse rentoile l'original, Vincent réalise une copie de la même taille, alors qu'il est à l'asile de Saint-Rémy. Ça, c'est la version de Chicago.
Et la troisième, alors?
La troisième, il a fait plus tard. C'est une réduction, un format paysage plus petit, pour sa mère et sa sœur Will. C'est celle qu'on peut voir au musée d'Orsay à Paris.
Et petit détail amusant, les portraits en miniature accrochés sur le mur de droite changent d'une toile à l'autre.
Oui, sur le mur de droite, on reconnaît le poète Eugène Bochor et le lieutenant Millier, ce qui aide à distinguer les tableaux.
Bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment la science a-t-elle pu prouver l'ordre exact de création de ces toiles? On n'était pas avec lui dans la pièce.
Eh bien, on a mené une enquête sur les fils de la toile. Littéralement.
Attends, ils ont compté les fils?
Mieux que ça. Ils ont utilisé une méthode automatisée de comptage des fils par radiographie X.
Waouh!
Il faut comprendre que chaque morceau de lin tissé à l'époque possède une empreinte digitale unique, avec les irrégularités de la chaîne et de la trame. L'analyse va prouver que les trois toiles proviennent exactement du même fournisseur, Tassé et Lott.
Mais...
mais elles ne sont pas coupées du même endroit sur le rouleau, et surtout, elles ont des couches de préparation, le fond qu'on met avant de peindre, complètement différentes.
Ce qui trahit la chronologie.
Exactement. Et stylistiquement, les preuves sont accablantes. L'étude d'Amsterdam montre un croquis préparatoire peint directement avec des repentirs.
Des repentirs? Tu veux dire qu'il a changé d'avis en peignant?
Oui. Par exemple, il avait fait les pieds du lit beaucoup trop longs au début, et il les a raccourcis en cours de route. C'est typique d'une œuvre réalisée sur le vif.
Alors que pour les copies?
Pour la version de Chicago, on voit un dessin au fusain, très propre, et des éléments qui sont gardés en réserve. Il a fait le contour des meubles à l'avance, ça prouve la préméditation totale d'une copie.
Et la touche de pinceau change aussi, non? Sur la première version, c'est super épais, improvisé.
C'est ça. Alors que les copies montrent des hachures beaucoup plus structurées, plus calmes.
Les versions de Chicago et de Paris sont des copies planifiées, au point de, je crois qu'il a même supprimé un coin du plafond sur la petite version parisienne pour que ça rentre, non?
Oui, il a triché sur la perspective pour que ça tienne sur la toile.
Eh ben, est-ce que ça leur enlève pas un peu de leur charge émotionnelle de savoir ça? Ce côté brut et spontané disparaît un peu.
C'est un point de vue très juste. L'émotion brute laisse place à l'exercice de style.
Et en parlant de copies préméditées et mathématiquement planifiées, qui modifient l'intensité émotionnelle, il y a un artiste américain qui a poussé ce concept à l'extrême, genre un siècle plus tard.
Tu parles de Roy Lichtenstein, évidemment.
Bien sûr.
En 1992, il présente Bedroom at Arles, un hommage pop art monumental, peint à l'huile et au magna.
Et quand on dit monumental, c'est pas une blague. Elle fait quoi, 3 mètres sur 4 ?
3,20 m par 4,20 m. C'est plus de 4 fois la taille de l'original de Van Gogh. Et le plus ironique, c'est qu'il ne s'est même pas basé sur la toile originale, mais sur une reproduction de calendrier, de la copie de Chicago.
C'est génial. Une copie d'une copie commerciale. Et le style subit une transformation radicale. On passe à un style cartoon, avec des contours noirs hyper épais.
Oui, le mobilier rustique est modernisé. Les chaises en paille deviennent des chaises tubulaires.
Et les vêtements ?
Chez Van Gogh, c'était les vêtements froissés de l'artiste tourmenté, suspendu derrière le lit. Chez Lichtenstein, ça devient les chemises blanches repassées d'un homme d'affaires.
Tout est lissé. Même le visage de Van Gogh, dans l'autoportrait sur le mur, est remplacé par les fameux points bendés. Les petits points de trame typiques des bandes dessinées.
C'est ça. Lichtenstein disait lui-même, avec beaucoup d'humour, « J'ai un peu rangé sa chambre pour lui. La sienne est bien mieux, mais la mienne est plus grosse. »
Ça me fait tellement rire. Mais cela soulève une question importante, au-delà de la blague.
Oui, la conservatrice Diane Waldman l'a très bien analysé. Les couleurs industrielles, la taille démesurée, tout ça réduit l'intensité psychologique étouffante de la vision de Van Gogh.
C'est une façon d'explorer avec humour cette espèce de folie romantisée du peintre.
Absolument.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Moi, je trouve que c'est l'acte de désinfection moderne ultime. On prend la réalité brute, émotionnellement chargée, d'un artiste en souffrance, et on la transforme en une gigantesque bande dessinée stérile.
Tout en rendant un hommage conscient, attention, Lichtenstein comparait sa démarche à Picasso réinterprétant Velázquez. C'est un dialogue entre maîtres.
Oui, c'est vrai. Et la traite de cette chambre est si fort, au fond, qu'elle a même été recréée physiquement, en 3D, lors d'expositions.
Oui, au Skirball Center ou au musée Van Gogh, par exemple.
Le public est invité à littéralement entrer dans la toile, à s'asseoir sur la chaise. Ça nous amène vraiment à la signification profonde de cet espace.
C'est clair. On a fait un sacré voyage aujourd'hui. D'une petite pièce trapézoïdale dans le sud de la France à la dégradation chimique de laque de géramilium.
En passant par l'analyse microscopique des fils de lin et l'ironie géante du pop art américain.
Si cette œuvre captive autant les gens, c'est peut-être parce que la chambre à coucher, c'est la projection ultime de l'individu. Chercher à aménager un espace pour y trouver du repos et de la sécurité, c'est un instinct profondément humain.
C'est universel. Et pour terminer, j'ai une dernière pensée, un peu provocatrice, qu'on laisse à la réflexion de notre auditoire.
Je t'écoute.
La Maison Jaune originale a été détruite par un bombardement allié le 25 juin 1944. Elle n'existe plus.
Et les couleurs des trois tableaux ont-ils irrémédiablement changé à cause de cette tragédie chimique dont on a parlé ?
Du coup, puisque la pièce physique a été annihilée et que l'étoile ne montre plus du tout ce que l'artiste voyait, est-ce que la véritable chambre à Arles, avec son harmonie parfaite et son repos absolu, existe encore ?
Ou est-ce qu'elle n'est plus qu'à l'état de fantôme ?
Exactement. Figée uniquement dans les mots de la lettre de Vincent et dans notre imaginaire collectif, c'est une sacrée question.